libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Votre libre antenne, c'est cool, continue. Nous voyageons ce soir à travers vos récits, vos partages, vos vies. La vie est de Florence et avec tout de même ces mots qui sentent l'espoir. Il y avait un peu de lumière pour Florence qui, ce 18 novembre, sentait qu'il se terminait bien ce soir. Et c'est tant mieux. Merci Florence pour votre appel. Et nous accueillons Françoise maintenant. Bonsoir Françoise.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir, comment allez-vous? Pas terrible.
C'est une très bonne question depuis quelques mois. Je ne trouve pas la réponse. Vous m'avez complètement troublée par cette question.
Vous allez par moment?
Oui, ben je suis d'une nature exubérante, donc je vais assez bien par moment. Et puis, mon gros problème, comme je l'ai expliqué à Florian, est une grosse culpabilité. Et alors là, quand la culpabilité me submerge, eh bien, je ne vais plus bien du tout. Et je crois que depuis quelques mois, je pleure à peu près tous les jours à cause de cette fichue culpabilité que je ne parviens pas à éliminer.
Alors, cette culpabilité, elle vient d'où exactement, Françoise ?
Alors, elle vient d'une décision que je n'ai pas prise seule, mais sur laquelle j'ai quand même pas mal pesé, que j'ai partagée avec mon mari il y a 2 ans et demi, quand je lui ai proposé de rester habiter en Italie pour un temps indéterminé, alors que je suis belge, nous sommes belges et nous habitions en Belgique depuis toujours, mais nous avions réalisé un rêve très 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 vieux qui était de nous offrir une deuxième résidence là-bas. Et tout marchait très bien tant que la deuxième résidence est restée une deuxième. Et lorsqu'elle est devenue la résidence principale, tout a continué à aller bien pendant un an. Et après un an, le projet a complètement capoté. Et il a très mal tourné. Et donc, nous sommes revenus avec bonheur. Je suis très, très, très heureuse d'être revenue dans une maison que j'aime beaucoup, beaucoup et dans un endroit que j'aime beaucoup en Belgique. Mais ma culpabilité vient du fait que j'ai imposé à mon mari, que j'adore, on le comprendra très vite, et qui est beaucoup plus âgé que moi, j'ai imposé la fatigue de ce gros déménagement international parce que, bon, ben, c'était un cauchemar. Quelqu'un m'avait dit « Tu verras, le déménagement, c'est un cauchemar ». J'avais dit « Non, non, dans ma grande joie de revenir ». Mais si, c'est un cauchemar. Bien sûr, c'est un cauchemar psychologiquement, c'est un cauchemar physiquement. Et je tiens à vous dire maintenant, avant tout, et je vous précise pourquoi, parce qu'un médecin un jour m'a dit « Mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt? Je vous aurais comprise beaucoup plus vite. Ça fait des mois que nous nous voyons et je ne vous comprenais pas ». Alors, je suis quelqu'un d'hypersensible, mais c'est maladif. Et étonnamment, je le deviens avec l'âge de plus en plus. Et cette hyper-émotivité est venue, c'est mon explication, mais je crois que c'est la seule et la bonne, est venue d'une jeunesse tragique dont les événements se sont terminés par la mort de ma mère lorsque j'avais 19 ans. Alors, bon, évidemment, ce n'est pas le sujet maintenant, ce serait très, très long à expliquer, mais bon, ces tragédies vécues beaucoup trop petites, beaucoup trop jeunes, m'ont marqué à jamais. Mais ce qui me fait peur, c'est que je deviens de plus en plus hypersensible avec l'âge, ce n'est pas le contraire. Et donc, cette hypersensibilité, maintenant, me submerge tous les jours, mêlée à cette culpabilité. Et voilà pourquoi j'ai pensé à vous pour me répondre... avec ces réponses que vous trouvez si bien. Je vous ai découvert, vous excuserez mon ignorance, mais moi je vous ai découvert en revenant d'Italie. Oui. Et depuis je vous écoute toutes les nuits, et franchement je vous apprécie énormément pour votre intelligence, votre sensibilité, votre patience, votre bienveillance, qui sont des qualités que je trouve devenues bien rares dans ce monde tellement individualiste.
Alors, c'est mon opinion. Elles ne sont pas si rares que ça. Hein. Je ne suis pas dépositaire de cela. Simplement, le tout, vous savez, c'est toujours de croire justement qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne pense de la bienveillance. Et il y a beaucoup de gens qui sont en quête de calme, de sérénité, de gentillesse, de chercher chez l'autre. Je pense que En fait, et on reviendra à votre histoire ensuite, je pense que en essayant de bien se comporter avec les uns et les autres, on finit par provoquer ce type de comportement aussi, vous voyez. Je sais qu'il ne vous est pas arrivé de très bonnes choses. Alors, tout d'abord, ce que je voudrais savoir, pourquoi avoir voulu vivre en Italie, au-delà du fait que c'était sans doute un endroit très agréable, mais vous y étiez en vacances. On sait que les vacances, c'est spécifique, les vacances, mais que quand il s'agit de vivre dans l'endroit où on est en vacances, c'est autre chose. C'est la Belgique, ça n'allait plus, ça ne vous convenait plus. Qu'est-ce qui a motivé vraiment ce choix?
Alors, vous avez peut-être fait déjà un résumé en posant des questions, à la différence que les vacances, c'était peut-être un peu plus que les vacances dans la mesure où, dans cette petite ville, bon, 10 000 habitants, c'est plus un village, disons une petite ville, j'allais dans cette petite ville, moi, depuis 30 ans, mon mari depuis plus de 50 ans, lui, parce que nous y avions un ami qui était un très vieux monsieur, qui était l'intellectuel du coin de ce qui était à l'époque un village. Malheureusement, il est décédé au moment où nous sommes installés, oui. Très âgé. Et nous avions chez lui, chaque année, lorsque nous y allions, des moments extraordinaires parce qu'il réunissait un monde vraiment intéressant et passionnant autour de lui. Et sans doute, avons-nous été leurrés parce que, comme vous dites, c'était des vacances, mais dans un endroit, bon, après 30 ans, toujours dans le même endroit, c'était peut-être pas tout à fait les vacances comme quand on découvre un pays pour la première fois. Moi, je me sentais chez moi, là-bas, et j'ai eu une passion pour cet endroit, et pour l'Italie du Nord en particulier, parce que je ne connais que l'Italie du Nord, oui. Mais une passion exacerbée. J'ai repris à 50 ans, j'ai refait, je crois qu'on appelle ça maintenant un master, on appelle ça une licence en Belgique, oui. Universitaire, par passion, en culture italienne. Je n'avais rien à en faire. Je veux dire, je n'ai pas changé de métier parce que je faisais cette licence, mais je l'ai faite par passion. J'ai écrit des livres sur l'Italie, j'ai même donné un cours à l'Université des Aînés sur l'Italie. Voilà, par pure passion. Et j'ai voulu réaliser, concrétiser, je crois, ma passion en la vivant sur place. Et oui, ben, j'avais l'impression à l'époque que j'avais un petit peu fait le tour ici. Et puis, au bout de 2 ans et demi, j'ai eu l'impression identique en Italie d'avoir fait le tour, mais pour des raisons différentes. Pour des raisons d'agressivité, de rejet, oui. que nous avons connu sur place. Dans ce village où nous allions, cette ville, disons, où nous allions depuis tellement, tellement, tellement d'années. Parce que, bon, 30 ans, plus de 50 ans pour mon mari, ça fait quand même, ça fait un paquet d'années. Hein.
Oui, oui, oui.
Mais nous nous sommes retrouvés peut-être un petit peu le bec dans l'eau quand notre ami a disparu, même si nous connaissions et que nous connaissons encore plein de gens et plein de gens très très sympathiques. Ce ne sont pas ceux-là qui se sont dressés contre nous. Ce sont les nouvelles têtes pour nous, là, dans le quartier où nous habitions. Nous avons été très, très, très mal acceptés. Très bien, tant que nous y allions, comme vous dites, un mois, deux mois, trois mois.
Oui.
Mais quand on s'est installé, les questions ont été claires, les questions se sont posées, des questions se posaient sur Facebook, même entre eux, comme si je n'étais pas capable de le lire, ils se disaient « mais qu'est-ce qu'elle veut ? Mais qu'est-ce qu'elle vient faire ?» Et puis, je suis entière. Alors, j'ai voulu même me proposer comme mère, puisqu'on changeait de législature.
Oui.
Et là, parce que j'ai été élue en Belgique, j'avais dit la politique plus jamais, parce que j'ai vu des choses vraiment pas très jolies. J'avais dit plus jamais. Et puis là-bas, je me suis de nouveau emballée. Et j'étais amoureuse de cette petite ville.
Ouais,
et,
ouais.
Mais là, et en fait, là, mon enthousiasme... Ouais. Oui.
Vous êtes laissé emballer, enfin, vous vous êtes laissé dépasser par votre enthousiasme, parce que
oui.
Être maire, alors que vous veniez finalement de vous installer, ça a dû conclure l'histoire, ça, non ?
Je n'ai pas remarqué à ce moment-là, mais je dirais oui.
Ouais, oui, ouais.
Oui, mais parce que les questions, évidemment, ce sont... Oui.
Vous savez... C'est vrai que encore une fois, bon, je le répète, lorsqu'on va en vacances, c'est drôle parce que je me souviens quand j'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans, allez, quand j'ai fait mes premiers voyages au Maroc, puis ensuite au Costa Rica, en Thaïlande, tous les pays où j'allais, en fait, je disais à tout le monde quand je revenais, j'irai habiter là-bas. Et j'avais des projets de, vous voyez, de. Oui. Et puis plus la vie m'a enseigné les choses, plus je suis retourné dans ces endroits, plus j'y étais attentif et plus je me suis rendu compte que finalement, il y aurait peu d'endroits aujourd'hui sur Terre où je vivrais comme ça, où je déciderais de m'établir. Parce que quand on étudie bien, les gens sont extrêmement, partout hein, où tu allais, extrêmement différents de ce qu'on les connaît lorsqu'on est en vacances. Vous avez raison de dire qu'ils nous ouvrent les bras, mais vous savez, vous devez le savoir aujourd'hui, lorsqu'on va en vacances, on est un porte-monnaie sur pattes hein, pour ces gens-là. On est des touristes, on dépense des... Alors, je ne sais pas si c'était le cas de votre ville où vous étiez. Hein.
Non, parce qu'il n'y a pas de tourisme là, pas du tout. Non, on se faisait bien remarquer parce que les seuls étrangers qui sont là sont des gens qui y habitent et qui tous se sentent rejetés parce qu'évidemment, j'ai eu le temps de leur parler et tous m'ont dit la même chose. Tous m'ont dit on n'est pas d'ici et on nous ferait bien sentir. Mais ce qui est étrange, c'est que toutes les petites villes aux alentours ont à peu près le même nombre d'habitants, à 1000, 2000 près.
Oui.
Et toutes ces petites villes tout autour sont tout à fait différentes. Et on m'avait prévenu, on m'avait dit, écoute, cette ville-là est tout à fait particulière, les esprits sont fermés, et je n'ai jamais voulu le croire.
Il y avait quelque chose, lorsqu'on vous a expliqué ça, il y avait une raison particulière.
Non, c'était les habitants que je fréquentais depuis, donc, comme je vous l'ai dit, 30 ans. Mais en 30 ans, les gens m'ont raconté des choses, mais la conclusion était toujours des copains que j'avais sur place et qui y habitent, et qui y habitent encore, et qui me disent, écoute, nous, quand je suis partie, ils m'ont dit, si on pouvait, on partirait aussi. Il y a un malaise dans cette ville, et vous en avez entendu parler d'ailleurs, personne ne connaissait cette ville avant le mois de juin, où il s'est passé une chose vraiment épouvantable, c'est l'histoire de ces enfants qui ont été arrachés à leur famille pour être placés contre des paiements dans des familles d'accueil. Vous avez entendu parler de cette ville, voilà. Et celle-là, et j'étais là à ce moment-là.
On va continuer à en parler ensemble dans quelques instants. On laisse passer le journal de la nuit et puis on se retrouve, on se retrouve tout de suite après, d'accord ?
Très bien.
À tout de suite. Votre libre antenne se prolonge, se poursuit jusqu'à 1h du matin en direct sur Europe 1 et nous sommes bien ensemble. Nous sommes avec Françoise qui ce soir nous raconte son choix, le choix de vivre à un moment de sa vie en compagnie de son mari dans un petit village, une petite ville même du nord de l'Italie. Un choix qui s'est avéré peu gagnant puisque au bout de quelques temps, Françoise a senti une certaine animosité de la part des habitants de cette ville jusqu'à finalement provoquer un retour en Belgique. Aujourd'hui, elle nous explique qu'elle nourrit une culpabilité par rapport à ce choix. Mais Françoise, en fait, comment ils vous manifestaient leur animosité ? Comment ça a commencé ? Comment est-ce que vous avez perçu que vous n'étiez pas les bienvenus ?
Peut-être que j'ai eu des difficultés à le percevoir parce que, comme je le répète, ça faisait tellement longtemps qu'on y allait. Et puis, quand on a choisi d'y avoir cette deuxième maison, évidemment, on y restait plus qu'un mois. On y restait 2-3 mois. Et c'était vraiment idyllique parce que j'ai fait un tas de choses là-bas, comme on fait chez soi. On fait du sport, j'ai organisé des conférences, etc. Et tout ça marchait très bien. Tout ça marchait très bien. Comme je suis journaliste, j'ai toujours eu l'habitude en Belgique de recevoir des personnalités. J'ai voulu continuer ça là-bas et ça a été très apprécié. Donc, je vais dire familièrement que je n'ai rien vu venir. Mais je pense, et je tiens quand même à le souligner, l'Italie a changé en 2 ans, mais vraiment changé radicalement. Et des tas de gens qui habitent sur place et qui sont italiens me l'ont dit eux-mêmes. Donc, je veux dire, j'ai vérifié mon impression, celle de mon mari. Elle est partagée par beaucoup, beaucoup de gens. Elle a changé parce que la politique a changé là-bas pendant ces deux ans.
Oui.
Et que l'extrême droite au pouvoir n'a rien arrangé. Moi, j'ai senti les discours changer radicalement en deux ans. Les discours sont devenus... je vais employer de grands mots, mais les discours sont devenus racistes.
Oui.
J'ai entendu des choses renversantes que je n'avais jamais entendues en Italie.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, le fait d'avoir un Premier ministre issu de l'extrême droite donne une sorte de...
validité aux idées.
Bah, en fait, il y a tout un tas de personnes qui sentent qu'ils ont le droit, qu'ils peuvent aujourd'hui dire... tout haut ce que plein pensent tout bas, comme on l'entend aujourd'hui.
Exactement.
En France. Mais en France, oui, cela reste mesuré parce que Dieu merci, l'extrême droite n'est pas encore arrivée au pouvoir, mais elle guette.
Voilà, exactement.
Mais avec bien évidemment, aujourd'hui en Italie, un Premier ministre qui, lui, ne se gêne pas des déclarations plus houleuses les unes que les autres et un certain état d'esprit. Bon, mais peut-être aussi, moi je pensais que le fait que vous fassiez venir des personnalités, que vous savez, vous avez dû déclencher une certaine jalousie, hein, parce que vous savez, le vivons bien, vivons heureux, vivons cachés, je pense que c'est aussi valable en Belgique, en France, qu'en Italie. Pensez-vous que vous ayez déclenché une certaine jalousie à un moment ? Au-delà,
oui,
du fait, comme je vous le disais tout à l'heure, de vous présenter comme maire, parce que là, je pense que vous avez signé votre arrêt. Là, c'est clair. Vous avez fait très fort. Mais là, vous êtes un peu emballé, si je peux me permettre. Mais,
oui,
parce qu'au bout de deux ans, c'était peut-être un peu tôt pour ça. Mais justement, revenons-en au moment où vous faites venir des personnalités. Vous organisez des événements autour de ces personnalités ? Comment...
Des soirées, parce que je fais ça depuis très 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 longtemps en Belgique. Et puis moi, je vous dis, comme j'ai travaillé pendant plusieurs années en radio comme journaliste avec des personnalités, pour personnalités françaises aussi bien sûr, moi c'est quelque chose qui me passionne, parce que j'adore ces gens qui au plus ils sont intelligents, au plus ils ont des choses à dire, au plus ils sont modestes. Et je pense particulièrement à Albert Jacquard, que j'ai reçu plusieurs fois, qui était un monsieur extraordinaire d'intelligence et d'humilité. Je suis passionnée par ce genre de rencontre et j'ai voulu faire la même chose là-bas. Et donc, comme j'avais la possibilité de prendre contact avec certaines personnes, je les ai fait venir dans le village et les soirées ont été fréquentées. Et donc, je me suis emballée de plus en plus, puisque ça semblait avoir du succès et intéresser les gens. Jusqu'au moment où, comme vous dites, mes amis m'ont fait la même analyse que vous. Ils m'ont dit, mais tu as déclenché des jalousies, parce que ça ne se faisait pas. Alors c'est quoi cette Belge qui débarque et qui vient révolutionner
ben oui,
et qui monte
ben
tranquille
oui. Mm-hmm.
Oui.
C'est qui cette Belge qui joue les grandes dames et qui bouscule un peu l'ordre établi et qui, tout à coup, devient plus importante que nous qui sommes d'ici. Vous savez, il y a ce sentiment aussi de la terre, des racines. Hein. Ici, on est chez
surtout
nous.
Là, voilà. C'est terrible dans cette ville-là. C'est terrible. Et tout le monde le dit actuellement. Tous ceux qui le supportent mal me l'ont dit. C'est une petite ville repliée totalement sur elle-même. Et
vous n'étiez pas légitime. Voilà le mot que je cherchais tout à l'heure et qui ne venait pas. Je pense que vous n'étiez pas légitime pour... occuper la place que vous vous êtes mis à occuper, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ?
Je vois très bien, mais vous imaginez que moi, au moment même, dans ma grande naïveté peut-être, je n'en sais rien, mais je n'ai pas compris, parce que ce n'était pas exactement, comme vous me disiez tantôt, et je partage votre idée, on s'emballe parce qu'on passe un mois de vacances à droite, à gauche, mais moi je ne me sentais pas touriste là-bas, parce que depuis 30 ans, j'ai passé là-bas des temps infinis. Et évidemment, j'allais pendant très longtemps, un mois par an. Et puis, j'y suis allée deux mois, puis j'y suis allée trois mois, six mois, etc. J'ai vécu différentes fois avant cela en Italie, mais un maximum de six mois à chaque fois. Et je me sentais accueillie, je me sentais chez moi. Vraiment, je ne m'attendais pas à un revirement aussi, aussi violent, qui est allé jusqu'à l'agression. En juillet, je me suis fait agresser par un voisin.
C'est-à-dire que s'est-il passé?
Mais bon, ce type a des problèmes personnels, ça, j'en suis convaincue, parce qu'il est agressif. Il est agressif avec les voisins autres que moi, il est agressif avec sa femme. Et à ses yeux, je suppose que j'étais... il avait fait partir d'autres voisins déjà, je dois le dire quand même, à ma décharge.
Vous le saviez?
Oui, parce que la personne dont il a provoqué le départ... Comme je suis psychothérapeute, parce que tout ça par passion, j'ai fait différentes choses par pure passion. Cette dame connaissait mon métier et elle venait en me disant « Je suis sûre que tu vas me comprendre, tu sais, il m'en fait voir de toutes les couleurs » jusqu'au moment où ils ont déménagé. Et à partir du moment où ces gens ont déménagé, ils s'en est pris à nous. Et au mois de juillet passé, je l'ai toujours évité, mais bon, avec une porte en commun, il s'est passé ce qui devait arriver. Il est sorti au moment où je rentrais. Je n'ai pas regardé et je l'ai senti à un moment se jeter sur moi et il m'a précipité contre le mur d'entrée en hurlant. Et comme nous avions déjà décidé à cette époque-là de rentrer et que nos paquets étaient faits à moitié, Je suis rentrée et j'ai dit à mon mari, écoute, moi je ne reste pas une semaine de plus ici. Parce qu'il s'en est pris à moi, mais il pourrait maintenant s'en prendre à ma petite chienne, parce que c'est très facile de mettre du poison. Moi, je pars, je m'en cours, je m'enfuis. Et nous nous sommes enfuis, littéralement, en laissant les paquets là, en attendant le déménageur. Et nous avons commencé à errer, comme je l'ai dit à Florian. Alors bon, c'est une errance, entre guillemets, de luxe, parce que je n'étais pas à la rue, mais nous n'avions pas notre maison qui était... Donc, pour laquelle je devais laisser le délai légal au locataire afin de quitter la maison. Oui. Donc nous avons commencé à errer d'abord en Italie, et puis nous sommes revenus en Belgique où nous avons logé chez des amis, et puis nous avons logé 6 semaines à la côte avant d'atterrir enfin chez nous. Mais voilà, enfin, bon, tout ça n'a pas été agréable du tout. Oui. Et ma culpabilité n'est pas par rapport à... Si, elle est par rapport à mon choix, mais par rapport au choix que j'ai, entre guillemets, imposé à mon mari. S'il était à côté de moi, il crierait « Non, tu ne l'as pas imposé, j'étais d'accord ». Bon, c'est vrai qu'il était d'accord, mais je m'en veux vraiment beaucoup, beaucoup par rapport à lui. D'abord parce qu'il a fait une chute de 12 mètres il y a longtemps de cela, 4 jours avant le décès de mon père. Et cette chute de 12 mètres, vous imaginez qu'elle a laissé des séquelles dans les côtes.
Oui.
Et donc, il souffre actuellement très, 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 très fort. Il souffre beaucoup de mal au dos. Je crains que le déménagement n'ait pas arrangé beaucoup de choses.
Bon.
Et donc, je me sens très coupable. En plus, il est beaucoup plus âgé que moi. Et donc, je me sens aussi coupable d'avoir... fatigué un monsieur plus âgé que moi et dont le dos est un petit peu en morceaux.
Mais Françoise, finissez, dites-moi.
Non, c'est de cela que je voulais vous parler, c'est de cette culpabilité qui m'empêche de respirer tous les jours maintenant, parce que vraiment j'ai un sentiment d'oppression horrible et nous avons la chance, nous sommes mariés depuis 34 ans, nous avons la chance de pouvoir tout nous dire. Je crois que c'est vraiment un bonheur très rare que nous vivons là, c'est de pouvoir tout nous dire. Et donc je lui exprime ce sentiment. Mais je veux dire, je n'ose plus, c'est un grand mot, mais je n'ose plus parce que maintenant il me dit « Mais non, arrête de me parler de culpabilité, c'est inutile, tu n'as pas à être culpabilisé vis-à-vis de moi. » Mais je continue à l'être et je ne veux plus évidemment l'ennuyer. C'est ce qui m'a décidé à vous appeler parce que j'en ai parlé à mes amis, j'en ai parlé autour de moi et je n'obtiens pas de réponse parce que...
Alors là, moi, je vais vous en donner une réponse.
Oui,
et comme vous êtes... une femme intelligente, vous allez bien écouter ce que je vous dis. Vous avez la chance d'avoir un mari qui, bien évidemment, a pris cette décision avec vous, même si vous étiez celle qui a provoqué cette décision. Mais dans la vie, on prend des décisions. On est guidé par des envies, des envies de joie, de plaisir, de bien-être. Il se trouve que vous avez tous les deux expérimenté cette vie en Italie pendant 1 mois, pendant 2 mois, parfois pendant 3, 4 mois, et que vous avez pris cette décision tous les deux. Maintenant, il s'est passé tout ce qui s'est passé. Et j'ai envie de vous dire que vous ne referez jamais le chemin à l'envers. Vous ne referez jamais même tout ce qui s'est passé. C'est passé, c'est fait. Reste aujourd'hui. Aujourd'hui, quelle décision vous devez prendre, Françoise ? Est-ce que vous devez prendre la décision de continuer à vous empoisonner la vie avec ces relents de « et j'ai pris des mauvaises décisions, et j'ai fait ci, et j'aurais pas dû faire ci » au lieu de passer à autre chose, de regarder devant, de vous dire que c'est un mauvais moment qui est passé. Pourquoi entretenir, pourquoi continuer à entretenir ce sentiment-là qui vous empoisonne, qui vous fait dépenser de l'énergie inutilement, parce que, pardonnez-moi, c'est inutile ce que vous faites. C'est inutile parce que votre mari, votre homme, il a envie de vous voir heureuse. La meilleure manière de soigner son dos, de le soigner lui, c'est au moins déjà de lui éviter de s'en faire pour vous. C'est lui éviter de percevoir que vous êtes triste ou que vous avez pleuré parce que vous devez sans doute éviter de pleurer devant lui ou d'être... Mais il doit sentir ces choses-là. Donc, pourquoi continuer à s'acharner sur vous, à vous triturer l'esprit par rapport à tout ça ? On a, dans la vie, le droit de faire des erreurs. On a le droit de se pardonner. On a le droit de une bonne fois pour toutes, de se dire, voilà, je me suis emballé. Je vous le dis parce que, si vous saviez le nombre de fois où je me suis emballé, jusqu'à... alors, pas aller au bout, hein, parce que ma femme aussi, elle se fout de moi souvent, elle me dit, tu te rappelles au moment où tu voulais faire ci, faire ça. Et donc, je devine quelle a été votre envie, votre empressement, même toute l'énergie que vous avez dû déployer à ce moment-là pour que ce projet-là se réalise. Il s'est réalisé, ce projet. Il s'est mal passé, mais c'est fini. C'est enterré, c'est brûlé, ça appartient au passé, oui. Vous voyez ce que je dirais. Et aujourd'hui...
Oui, je vois très bien. Oui.
Et aujourd'hui, quel est l'intérêt ? Qu'allez-vous chercher dans tout ça ?
Oui.
Qu'allez-vous chercher dans tout ça ? Dites-moi.
En fait, rien du tout. Comme, bien sûr, rationnellement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne vais rien chercher de constructif, c'est évident. Mais en fait, c'est ma peur qui s'exprime aussi dans ma culpabilité. Vous imaginez un déménagement pareil avec, je veux dire, bon, c'est pas une toute petite maison, donc j'ai ramené.
Oui, vous avez dû, ça a dû être très fatigant. Ça a dû.
C'est épuisant, nous sommes épuisés. J'ai encore des tas de cartons, parce que je vous ai dit, ça fait 15 jours que le camion est arrivé, donc j'ai encore des cartons à vider. Et nous avions fait, en revenant pendant notre période d'errance, comme je dis toujours, on a fait des projets extraordinaires et on allait refaire, et on l'a refait, on a rafraîchi la maison, bien entendu, on l'a refaite autrement, elle est encore plus à notre goût maintenant. Et malgré tout, je me dis, c'est pas fini, on est toujours dans le désordre.
Oui, mais tout ça va s'arranger. Tout ça va s'arranger. Et est-ce qu'il n'est pas heureux d'avoir retrouvé sa maison, votre mari, aujourd'hui ? Est-ce qu'il n'a pas émis vraiment le plaisir d'être revenu en Belgique ? Et est-ce que vous, comme lui, vous sentez aujourd'hui que c'est là, chez vous ? C'est ici ?
Oui, tout à fait.
Vous y avez vos amis ?
Nous en avons encore parlé. Aujourd'hui, oui, que nous avons retrouvé avec plaisir. Mais vous savez, c'est vrai que je crois que c'est une petite analyse dont j'ai besoin. Parce que j'ai peur. J'ai peur. Et là,
vous avez peur de quoi, en fait, dites-moi.
On rejoint le drame que j'ai vécu à 19 ans quand ma mère est morte. En fait, moi, je n'avais pas vu. J'ai vu ma mère le soir et elle est morte pendant la nuit. Et je n'avais pas compris qu'elle allait mourir. J'avais 19 ans, je n'avais jamais vu ça. Et depuis, j'ai peur de perdre les miens. Alors, nous avons, vous connaissez sans doute mon âge, nous avons à peu près le même âge. Donc, 19 ans, c'était quand même il y a un bon bout de temps.
Oui.
Ça. Depuis, j'ai peur de perdre les miens. Mon mari a 82 ans. Et voilà, alors il en fait facilement 15 de moins. Il est en pleine forme, sauf son dos qui est complètement... amoché. Oui. Et sinon, c'est vrai qu'il est, il est merveilleusement bien à cet âge-là. Et malgré tout, je me dis, j'ai peur, J'ai un voisin qui m'a sorti, c'est un monsieur très intelligent, mais malgré tout, je trouve qu'il aurait bien fait de s'abstenir de me dire ça. Et, tu sais, il y a un proverbe chez moi qui dit « un déménagement, 2 ans au moins de ta vie ». Et je me suis dit, non, pourquoi il me dit ça maintenant, moi qui ai tellement peur d'avoir, d'avoir contribué au mal-être de mon mari, au vieillissement de mon mari, je ne sais pas,
oui, mais
j'en sais rien.
La réalité, en fait, Françoise,
oui.
La réalité, quelle est-elle, la réalité, là, maintenant, au moment où on se parle? Est-ce que votre mari...
Je n'en sais rien, Olivier.
Il
est très fatigué.
Il est très fatigué, bon, mais il est fatigué, oui. Parce que vous avez un peu bourlingué ces derniers temps et que vous aussi, vous êtes fatiguée, Françoise. Vous aussi, vous
très,
êtes fatiguée,
oui.
Là.
Oui, oui,
et,
oui.
Et quand on est fatigué, on sait que on voit tout en noir quand on est fatigué. Moi, le premier, hein, et on est tous pareils à ce niveau-là. C'est, dès qu'on est fatigué, on se demande si on a fait les bons choix, on se demande bah, plein de choses, hein, finalement. Ça peut être de nos questions peuvent être de toute nature. Donc,
oui,
moi, je pense que sincèrement, vous avez eu le courage déjà de revenir, de partir de là-bas, parce que si vous étiez, si vous étiez acharné, ce voisin, il aurait très bien pu vous pousser, et puis vous, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous auriez pu vous acharner, hein, et qu'il s'en prenne à votre petite chienne, ça aurait pu dégénérer cette histoire encore plus, hein. Donc
là... Oui, mais enfin, ça aurait été l'idée aussi de ma part, là, franchement.
Mais oui, mais là, vous êtes rentré, vous avez pris, vous savez, c'est qu'une question là, de quoi, de quelques jours, peut-être quelques semaines, que les choses reprennent leur rythme, voilà, et que petit à petit, vous repreniez le rythme de votre vie en Belgique et recommencez là, d'ici quelques mois, à aller vous balader avec votre mari, parce que l'un comme l'autre, vous êtes en forme et vous avez la chance de pouvoir vous balader. Donc, je pense que vous devez tirer plutôt un enseignement de tout ça et de vous dire j'ai voulu à un moment changer de vie, j'ai voulu et en fait est-ce que je me suis posé les bonnes questions. Je pense que dans quelques semaines, quand vous me rappellerez, vous me direz je suis finalement beaucoup plus riche aujourd'hui des enseignements de cette mésaventure. Finalement, j'ai cru à un moment que je pouvais vivre ailleurs, j'ai cru en l'espèce humaine, hein, en cette espèce italienne, précisément ces gens-là, de cette ville-là, et puis finalement vous avez été rejeté par ces gens-là, alors que vous étiez pleine d'enthousiasme, et vous n'avez pas vu arriver, c'est ça que vous n'avez pas vu arriver, Françoise, il faut pas que vous ayez peur qu'il arrive quelque chose de mal au vôtre, parce que la réalité c'est que votre mari, même s'il est fatigué, il est comme vous êtes fatigué aujourd'hui. La réalité,
oui,
c'est que...
Oui,
la réalité c'est que vous n'avez pas pensé... Oui, mais encore une fois, je ne suis pas non plus... je ne vais pas faire une analyse de votre situation en quelques minutes, mais j'entends ce que vous me dites. Votre mari, il fait 15 ans de moins, et même s'il est très fatigué, parce que ça fait quelques semaines que vous êtes rentrés, et que ça a été... vous avez été bousculés l'un et l'autre pendant cette période. Lui a dû être très bousculé, parce que si vous vous en faites pour lui, il doit s'en faire aussi beaucoup pour vous. Donc,
oui, certainement.
Et donc, au final, l'inquiétude comme ça fatigue, ça use.
Beaucoup. Oui, et c'est pour ça que je vous ai téléphoné. Vraiment, vous avez été mon... Je me suis dit, je dois l'appeler parce que je vous entends toujours répondre. Vous savez, quand je vous écoute, le soir, quand je suis si culpabilisée, si triste par moments, je me dis, je vais écouter Olivier, il me rend sereine parce que vous avez cette voix et vos réponses, bien entendu, qui me rend sereine, et je vous écoute dans le noir et je m'apaise. Et je me suis dit, bon, maintenant, je franchis le pas, je parle en direct parce que je ne parviens pas à m'apaiser ces temps-ci, parce que je ne retrouve pas ma sérénité. Ça peut paraître ridicule, ça peut paraître enfantin, je ne sais pas. Mais je crois que je sature, je crois que je suis un petit peu au maximum des émotions qu'on a pu vivre.
Et puis vous voyez, il y a une auditrice qui vient d'appeler Florian et qui lui a dit, je crois me reconnaître dans le témoignage de Françoise. Et elle m'a donné cette citation d'Aristote qui dit « Il n'y a qu'une façon d'éviter les critiques, ne rien faire, ne rien dire et n'être rien. » On n'a pas envie, ça, vous comme moi, de ne rien dire, de ne rien faire et de n'être rien. Sauf que la morale...
Mais
oui, et la morale de cette histoire, c'est que là-bas, En fait, vous avez bousculé, de par votre nature, de par votre sensibilité, de par votre envie de faire des choses, de construire, d'être vivante, hein, finalement. Vous avez bousculé les petites habitudes un peu médiocres de ces gens-là. Et je crois qu'il faut que vous tourniez la page, mais vraiment, effectivement, et que, au contraire, je vous encourage vraiment à tourner la page, Françoise, et à vous dire je vais me reposer, je vais prendre quelques jours là pour arranger doucement, tranquillement notre cocon, hein, qu'on connaît déjà puisqu'on est chez nous ici, et puis apprécier les vôtres, vos vrais amis, ceux qui sont autour de vous là en Belgique, que vous connaissez, dont vous savez que ils ne vous feront pas de mal. Et en vous disant que vous êtes plus riche aujourd'hui de cette expérience-là, parce que moi, je pense qu'en vous écoutant, je me sens enrichi moi-même de ce que vous avez raconté ce soir.
C'est pas possible, je n'ai dit que du moche.
Mais non, vous n'avez pas dit que du moche, vous avez parlé d'un enthousiasme énorme et de croire qu'on peut comme ça aller s'installer dans une petite ville de province comme ça où on pense qu'on va être accueilli les bras ouverts. Mais non. Vous savez, cet été, j'ai été au Costa Rica et j'ai fait la connaissance d'un Français là-bas qui s'appelle Georges. Et il a acheté un gros bout de terre là-bas où il a construit sa ferme. Mais il a mis 20 ans à faire sa vie là-bas. Et quoi qu'il arrive, il me disait, tu sais, ça fait 25 ans que je suis là. 25 ans que j'emploie des personnes, que je donne du boulot, que des familles se nourrissent. Mais je sais que je ne ferai jamais l'unanimité. Et je sais que je ne serai jamais chez moi. Vous voyez ?
Voilà, c'est ça.
Et ça, vous avez sans doute du mal à l'admettre, Françoise. Sauf que... Et je comprends, oui. Je comprends parce que j'ai beaucoup de mal à admettre cette idée-là. Cette idée que, parce que je ne suis pas né là, sur ce lopin de terre-là, que je ne puisse pas m'y établir et y devenir comme les autres, un homme libre et un homme qu'on peut aimer, qu'on peut voilà. Vous avez du mal avec ce sentiment-là, mais la nature humaine est faite ainsi et il faut que vous acceptiez. C'est très frustrant, mais je pense que vous vivez une certaine frustration par rapport à tout ça, en même temps que vous vous dites et en plus de ça, ça nous a beaucoup éprouvés. Cette histoire.
Voilà, exactement.
Et il y a ce sentiment de gâchis, mais encore une fois, vous pouvez le balayer en quelques jours en vous disant, il m'est arrivé ça, j'accepte ce qui m'est arrivé, je sais que j'ai fait une erreur, mais on a le droit de faire des erreurs. Il manquerait plus que ça qu'on n'ait pas le droit. Hein ?
Oui, c'est vrai que je n'y ai pas droit. Je ne me suis jamais donné le droit.
Il faut vous autoriser ça.
Depuis enfant.
Mais oui, mais ça fait partie de notre construction personnelle d'accepter ça.
C'est vrai. Parce que si
vous n'acceptez pas ça, vous serez malheureuse et vous perdrez de l'énergie et du temps inutilement. Il faut s'enrichir de ses choix, qu'ils soient bons ou mauvais. Voilà. Je dis toujours depuis que j'ai la chance, qu'on me donne la chance d'écouter les autres, de parler, d'échanger avec les autres. J'ai une chance formidable. On se construit dès petit, et jusqu'à la fin de nos jours, on se construit comme ça, en échangeant avec l'autre, qu'il soit d'accord ou pas. Vous savez, un jour, l'année dernière, l'après-midi, j'avais une émission sur Europe 1, et j'ai fait un jour une émission sur la vérité. Voilà.
Voilà.
Et donc, je n'avais jamais pensé ainsi, mais que le monde serait ennuyeux, vide et vide de tout sens si, justement, on disait la vérité à chaque fois. S'il n'y avait pas de mensonge, vous voyez ?
Et voilà.
Et ça, quelque part, ça m'a aidé à comprendre que plein de choses. Et ça m'a aidé à comprendre aussi, surtout, que on peut se planter dans sa vie. Et ce n'est pas parce qu'on s'est planté qu'il faut en plus, se matraquer encore plus et se dire « Oh là là, tu t'es planté, quel nul, quel zéro tu es. » Non, tu t'es planté.
Oui, c'est tout à fait mon cas pour l'instant. Ouais.
Mais il faut repenser à ce que je vous ai dit.
Oui, mais je fais ça depuis que je suis enfant.
Mais vous n'êtes plus une enfant. Vous n'êtes plus une enfant, Françoise.
Non, mais je veux dire, bon, ça fait... des dizaines d'années que le moindre échec me culpabilise. Ça doit venir certainement d'un message parental quelque part.
Fait peut-être partie de votre construction aussi, hein, de votre nature, la démarche de se pardonner, c'est celle-là que vous devez faire.
Il faut y arriver.
Pardonner à l'autre. Oui. Essayez d'aller trouver un moment dans votre vie où vous avez été capable de pardonner à quelqu'un emprunter le même chemin pour vous pardonner à vous. Voilà.
Oui, c'est plus difficile.
Mais oui, bien évidemment que c'est plus difficile, mais vous en êtes capable, non ?
On va essayer, maintenant vous me l'avez dit. Mais
écoutez, essayez. Et n'hésitez pas à me donner des nouvelles, d'accord ?
Je vous remercie,
Françoise. Et embrassez votre mari pour nous. D'accord.
J'embrasse Jacques et j'embrasse Myrtille.
D'accord, très bien. Passez une
belle
nuit.
Je vous embrasse aussi.
Bonsoir, Françoise.
Au revoir.
Au revoir.